Brother Malcolm,
frère Malcolm,
a great human being,
un grand être humain,
a great black man,
un grand homme noir,
a great Pan-Africanist,
un grand panafricaniste,
and a master teacher,
et un maître à penser.
Malcolm X est compliqué à définir parce qu'il a eu plusieurs casquettes et qu'il n'a pas eu de véritable, on va dire, métier, profession. Il a eu des statuts en étant un ministre du Temple dans la Nation of Islam. Donc on peut dire que c'est un personnage politique essentiel et important dans le mouvement des droits civiques. Et c'est un des grands représentants de l'islam aux États-Unis au XXe siècle.
Malcolm X is an ancestor.
Malcolm X est un ancien qui inspire ma vie et l'âme de Harlem, le quartier où l'on se trouve. Mais il était aussi un père, un mari, et je pense qu'il a beaucoup évolué jusqu'à avoir une fine compréhension de la libération des peuples et d'un ordre du monde plus harmonieux.
Malcolm X
est un champion du combat des Noirs.
The preeminent voice for black freedom.
La voix de la liberté noire ici aux États-Unis.
He was the greatest champion of dignity for black people.
C'était le plus grand défenseur de la dignité des Noirs.
And he spoke boldly, courageously, without
il parlait courageusement,
one iota of fear.
Sans une once de peur.
And because of his commitment to that struggle,
et son engagement dans ce combat,
it culminated in his brutal assassination.
A conduit à son brutal assassinat. On dit son martyr.
February 21st.
Le 21 février 1965.
Distinguished guests, brothers and sisters, ladies and gentlemen, friends and enemies.
I am Malcolm X.
Assalamu alaikum.
Malcolm X, Colère Noire. Romain Weber, Yvon Croisier.
Premier épisode, meurtre à Harlem. February 1965. Il faisait très froid.
Very cold.
Très froid.
And I think it had been, well, not, you know, heavy snowing.
Et il n'y avait pas beaucoup neigé.
You know, people were very,
mais assez pour que les gens aient peur de prendre la voiture.
You know, and the weather was very bad that
le day. Temps était très mauvais ce
but
jour-là.
A friend came by and picked me up and took
mais
me
un
to
ami
the
est passé et m'a
and
emmené à l'eau du bon.
Like some people would say that you know, that the weather should have given you some kind of,
certains
you know,
disent que le temps laissait présager ce qui allait se passer ce jour-là. Mais ce n'était pas le cas. C'était simplement une journée d'hiver particulièrement froide à New York.
Peter Bailey, Malcolm X, a rendez-vous pour faire un discours à l'Audubon Ballroom, qui est au nord de Harlem. À quelle heure est-ce que vous êtes arrivé, vous, à l'Audubon Ballroom?
Frère Malcolm devait parler, si mes souvenirs sont bons, à 14 heures. Je suis arrivé vers midi et demi.
And I usually went, when we had our, you know, our
quand on faisait des meetings, J'arrivais généralement plus tôt. Et j'aidais pour installer les chaises. Parce qu'à l'Audubon, il y avait des bancs sur le côté où les gens pouvaient s'asseoir et des tables. Mais le centre de la salle était complètement vide. Donc on devait mettre des chaises. On avait déjà eu des choses comme ça. On avait déjà eu des attaques sur Frère Malcolm. Je ne pressentais absolument pas ce qui allait arriver jusqu'à ce que ça arrive.
Naja Zigby Johnson, vous avez travaillé, vous, au Shabazz Center, qui est l'endroit où Malcolm X est mort. Dans votre livre Mapping Malcolm, vous commencez avec ces quelques lignes que j'ai trouvées très jolies. Est-ce que je peux vous demander de les lire, s'il vous plaît ?
Juste avant que le soleil ne se couche sur l'Hudson River, il se diffuse à travers les fenêtres qui font l'angle de l'Audubon. Le premier étage baigne dans une chaude lueur orange et tout semble suspendu avant que le soleil ne passe derrière l'horizon. Puis l'obscurité de la nuit enveloppe la 165e rue et Broadway. Ces moments étaient parmi mes préférés à l'Audubon. Seul avec cette histoire et cette lumière.
I do often think about the last drive.
Je pense souvent au dernier trajet de Malcolm.
Perhaps
peut-être
along the Hudson River,
le long de l'Hudson River
to the Audubon
jusqu'à l'Audubon.
He was killed in the afternoon, and so there was still light streaming into the ballroom.
Il a été tué l'après-midi.
If it wasn't covered in drapery,
donc il y avait encore de la lumière qui entrait dans la salle. Si elle n'était pas obstruée, mais il y a d'immenses fenêtres.
It's an interesting space because it's a bit cavernous, but you also feel.
C'est un endroit particulier parce que c'est un peu caverneux, mais on ressent aussi l'énergie de Malcolm X. Et de sa femme, Betty Shabazz, et de tous ceux qui ont fait vivre cet endroit. J'ai passé beaucoup de temps seule à l'Audubon. Et c'était un peu troublant. Mais quand cet endroit s'anime, il se remplit d'une positivité et d'une énergie que Malcolm X aurait voulu, je crois.
Malcolm X, l'autobiographie.
Je me réveille tous les matins en me disant que j'ai gagné un jour de plus. Dans toutes les villes où que j'aille, quand je donne des discours ou que je tiens des meetings pour mon organisation, des Noirs surveillent mes moindres faits et gestes, attendant une occasion de me tuer. J'ai dit publiquement à plusieurs reprises que je sais maintenant qu'ils ont reçu des ordres. Quiconque ne me croirait pas ne connaît pas la Nation of Islam.
Jonathan Demey, vous qui êtes journaliste, qui avez écrit une biographie sur Malcolm X, est-ce que vous pouvez nous aider à reconstituer sa journée du 21 février 1965 ? Elle commence comment ?
Elle commence par un coup de téléphone à 8h le matin et on lui explique qu'il n'entend qu'une voix qui lui dit « Réveille-toi, frère ». Donc ce qui est à la fois classique parce que depuis sa rupture avec la Nation of Islam, il recevait des coups de téléphone quotidiens avec des menaces de mort, donc il n'est sans doute pas étonné à partir de ce moment-là. Dans la foulée, il appelle sa femme en lui expliquant qu'il veut qu'elle vienne avec ses enfants au meeting à l'Audubon Ballroom l'après-midi, ce qui est un changement d'avis, car quelques jours avant, lui et ses équipes avaient parlé de sa sécurité et Malcolm ne voulait pas que sa femme et ses enfants viennent à ce meeting du dimanche. Et puis finalement, il change d'avis.
Ilia Shabazz, vous êtes la troisième fille de Malcolm X et de Betty Shabazz. Au total, ils en ont eu 6 de filles. Est-ce qu'il était courant que votre famille assiste au meeting de votre père ?
Je crois que oui. Surtout si c'était à côté. Mon père voyageait dans le monde entier et dans tout le pays. Mais je crois que pour certains meetings, à New York, Nous allions avec lui.
As a family.
En famille.
Donc il appelle sa femme, il lui demande de venir avec ses enfants pour le meeting de l'après-midi. Et d'après effectivement les témoins, et c'est ce que tous les biographes ont expliqué, il arrive à l'eau du Bombal Room en étant stressé. Il est un peu ailleurs, on sent qu'il est tracassé par quelque chose. Et lui-même le dit apparemment à des militants en expliquant qu'il ne se sent pas bien, qu'il sent pas que le meeting va se passer bien.
There is this thing called destiny, and I think Muslims believe that.
Il y a cette chose qui s'appelle le destin. Et les musulmans croient qu'à votre naissance, vous avez déjà un destin. Certains vivront jusqu'à 100 ans, d'autres ne dépasseront pas 3 heures, 2 semaines ou 10 ans.
Et donc, quand j'ai parlé à mon père's lawyer, il m'a dit about.
L'avocat de mon père m'a partagé une histoire que mon père lui avait racontée.
He's on a horse, this character.
L'histoire d'un homme sur un cheval. Il arrive à l'intersection de 3 chemins. Lequel va-t-il prendre? Je crois qu'il s'appelle Omar. Omar l'esclave. Et en réalité, peu importe le chemin, la mort est au bout et elle l'attend. C'est ça qu'on appelle le destin. Vous ne pouvez pas échapper à ce qui est inéluctable.
L'homme ne dispose que d'un certain temps pour faire ce qu'il doit faire. Penser à la mort ne me dérange pas, contrairement à d'autres. Je n'ai jamais imaginé que je vivrais vieux. Même avant d'être musulman, quand je trafiquais dans le ghetto, puis en prison, j'ai toujours pensé que je mourrais d'une mort violente. C'est courant dans ma famille.
Dans quel état d'esprit il était, Malcolm X? Comment est-ce que vous l'avez trouvé, Peter Bailey?
You're a man.
Vous êtes un homme.
You're a father.
Vous êtes un père.
You got a wife.
Vous avez une femme, pregnant, enceinte.
Wife. 4 little children.
Et 4 enfants.
Oldest one, I think, was about 6.
L'aînée devait avoir 6 ans.
Time, maybe a year.
La plus jeune, un an et demi.
Like any man in a situation like that, you know.
Comme n'importe quel homme dans cette situation, il pouvait être un peu préoccupé. Je n'ai pas beaucoup vu après ce qu'il s'était passé, l'incendie de sa maison. Mais il était décontracté. Frère Malcolm savait toujours garder le contrôle pour ne pas montrer ses sentiments en public. Il n'était pas là à dire « Oh mon Dieu !» etc. Il n'était pas comme ça.
Qu'est-ce qui s'est passé pour votre famille dans la nuit du 14 février 1965, il y a Sacha Baz?
Le 14 février, notre maison a été incendiée. Ma mère et mon père étaient dans leur lit. Ma mère était enceinte des jumelles. On était 4 enfants, on dormait. Un cocktail Molotov a été jeté dans notre chambre.
Abdourahman Mohamed, on est dans le Queens, à l'est de New York, dans une petite maison, c'est la maison de Malcolm X. Il va se coucher vers minuit, minuit et demi, et à 2h30, on entend du bruit dans la maison. Qu'est-ce qui se passe?
Well, the quiet, calm night was broken by a firebomb.
Le calme de cette nuit d'hiver a été brisé par un cocktail Molotov. C'était un crime horrible qui a détruit l'essentiel des biens de Malcolm et qui était fait pour lui signifier que son opposition et ses prêches contre la Nation of Islam n'étaient plus tolérés.
Malcolm X entered the Nation of Islam. Approximately 1948.
Malcolm X est entré dans la Nation of Islam vers 1948. Il a été initié par ses frères et sœurs. La Nation of Islam disait que la solution à ce qu'on appelait le problème racial
by a complete separation of the black race from the white race.
ne pouvait être que la séparation totale des Noirs et des Blancs. Ça se présentait comme un mouvement religieux, mais au fond, c'était un mouvement nationaliste noir, un mouvement séparatiste. Et Malcolm a adhéré à cette conception de l'islam parce que ça expliquait toutes les souffrances de sa vie. La mort de son père, dont il disait que c'était le fait de la Black Legion, qui étaient des suprémacistes blancs, l'internement de sa mère, l'assistance sociale, qu'il accusait d'avoir déchiré sa famille, son professeur d'anglais au collège, qui lui avait dit que, parce qu'il était noir, il ne pourrait pas devenir avocat. Tous ces blancs qui avaient croisé son chemin, la Nation of Islam disait qu'ils étaient des démons. Ils ne sont même pas humains. Ce sont des démons. Voilà ce qui a attiré Malcolm X.
New York, Queens, 14 février 1965.
Yann Ismail, docteur en droit, en islamologie, vous avez mené un projet sur la vie de Malcolm X. Il est minuit et demi, il est fatigué. Qu'est-ce qui se passe deux heures après ?
Il accuse la Nation of Islam, hein, quand les secours viennent, quand les caméras viennent, et il est révolté. Et la Nation of Islam, interrogé par les médias, dit c'est un coup monté par Malcolm X lui-même pour attirer l'attention sur lui, pour se faire de la pub. Et finalement, quelque part, les médias donnent un peu de crédit à cette thèse. Avec le recul, avec ce que d'autres chercheurs ont fait, ce que moi j'ai fait aussi en tant que chercheur dans les interviews que j'ai conduites, on sait que c'était Captain Joseph, qui était le capitaine de la mosquée numéro 7 de New York, qui a donné l'ordre à d'autres membres. On a des noms qui circulent.
Qui était la mosquée de Malcolm X.
Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est eux qui ont mis le feu à sa maison.
Abdourahman Mohamed, la police de New York retrouve dans sa maison une petite bouteille de whisky qui est remplie de carburant. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est Malcolm X qui a mis le feu à sa maison ?
This is one of the most vexing questions associated with the campaign to destroy Malcolm X.
C'est une des questions les plus délicates dans l'opération pour éliminer Malcolm X. Qui a mis cette bouteille d'essence dans sa maison ?
Malcolm believed that this was evidence that there was a broader conspiracy.
Malcolm voyait ça comme la preuve qu'il y avait une conspiration plus vaste entre la Nation of Islam, qui était son ennemi affiché,
or quarters within the New York City Police Department, or possibly the FBI,
et des forces de la police de New York, et possiblement du FBI, qui voulait le tuer.
And his enemies used that as evidence that he was a media hound.
Et ses ennemis ont utilisé ça pour dire qu'il était obsédé par les médias, qu'il était prêt à tout pour qu'on parle de lui. Et ça le perturbait beaucoup.
New York, Harlem, conférence de presse de Malcolm X.
Je veux que vous sachiez que ma maison a été attaquée par le mouvement des Black Muslims et sur ordre d'Elijah Muhammad. Ils avaient repéré l'endroit. Ils avaient prévu d'attaquer par l'avant et par l'arrière pour que je ne puisse pas sortir. Ils ont obstrué la porte de devant, puis ils sont allés derrière. Mais ils ont jeté le projectile de biais contre la fenêtre. Il a ricoché et il est tombé par terre. Ça a réveillé ma deuxième fille et ça a pris feu à l'extérieur de la maison. Mais si ça avait traversé la fenêtre, ce serait tombé sur une fille de 6 ans, une fille de 4 ans et une fille de 2 ans. Et je vous assure que j'aurais pris mon fusil et je m'en serais pris à tous ceux que j'aurais croisés. Je vous dis ça parce que la police est au courant des opérations criminelles des Black Muslims. Elle les a minutieusement infiltrés. La seule chose que je regrette dans tout ça, c'est que deux organisations noires se combattent et s'entretuent.
Peter Bailey, vous qui avez travaillé avec Malcolm X en 1964, est-ce que Malcolm X vous disait que sa vie était en danger?
Il l'a dit quelquefois. Mais toujours de cette façon. Qu'il pouvait être en danger. Quand on s'est rencontrés pour la première fois dans un hôtel pour fonder le mouvement, il a dit, je vous préviens, si vous rejoignez ce mouvement, l'Organisation pour l'Unité Afro-Américaine, vous entrerez immédiatement dans les dossiers du FBI et de la police de New York. Sachez-le. Et si ça vous embête, partez maintenant. Et deux ou trois personnes sont parties. On savait que c'était une possibilité. Parce qu'on en avait vu assez pour savoir que le FBI de J. Edgar Hoover était prêt à tout pour arrêter Frère Malcolm.
Immediately after the attack, Malcolm goes to Detroit.
Juste après l'incendie, Malcolm part à Détroit pour parler à ses partisans.
So Malcolm goes to Detroit because he had a commitment there.
Il va parce qu'il avait un engagement et parce qu'il avait besoin d'argent. C'était devenu le seul moyen de gagner sa vie. Ses discours.
Distinguished guests,
chers invités,
brothers and sisters,
mes frères et mes sœurs,
ladies and gentlemen,
mesdames et messieurs,
friends and
mes amis
enemies,
et mes ennemis.
Détroit, 14 février 1965, meeting de Malcolm X.
Je veux d'abord dire que je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Et je vous remercie de m'avoir invité à Détroit. La nuit dernière, j'étais dans une maison qui a été attaquée. La mienne. Mais ça ne me fait pas perdre confiance en ce que je fais. J'étais dans un avion entre Alger et Genève. Et il y avait deux Américains assis à côté de moi. Ils ne se connaissaient pas et les deux étaient blancs. Un homme et une femme. Après une quarantaine de minutes de vol, la femme me dit, « Je peux vous poser une question ?» Elle avait regardé ma mallette et elle me dit, « X. » Quel nom de famille commence par un X? Donc je dis, c'est juste X. Et elle dit, d'accord. Et que veut dire le M? Malcolm. Et elle s'est tue pendant une dizaine de minutes. Puis elle s'est retournée. Et elle m'a dit, vous n'êtes pas Malcolm X. Vous voyez? On avait eu une conversation sympathique entre trois êtres humains, sans animosité. Elle n'en revenait pas. Elle me dit, eh bien, vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. Elle s'attendait à ce que j'ai des cornes et à ce que je veuille tuer tous les blancs. Comme si on pouvait tuer tous les blancs. Et cette image lui avait été donnée par la presse. Mais avant que j'aille plus loin, je dois clarifier ma position. Je ne suis pas raciste. Je ne crois en aucune forme de racisme, de discrimination ou de ségrégation. Je crois en l'islam. Je suis musulman. Il n'y a rien de mal à être musulman. L'islam nous apprend simplement à croire que Dieu est Allah. Ceux d'entre vous qui êtes chrétiens croient probablement au même Dieu, celui qui a créé l'univers. La seule différence, c'est que vous l'appelez Dieu et que nous l'appelons Allah. Les Juifs l'appellent Jéhovah.
Abdourahman Mouhamad, historien.
The situation or the relationship between Malcolm X and the Nation of Islam began to fracture.
La relation entre Malcolm X et la Nation of Islam a commencé à se fracturer quand Malcolm s'est aperçu des contradictions du mouvement.
Malcolm was a man of action.
Malcolm était un homme d'action.
The Nation of Islam was aloof from the civil rights.
La Nation of Islam restait à distance du mouvement des droits civiques.
Harshly criticized the civil rights movement.
Il le critiquait très violemment.
The protests,
les sit-ins, right? Les manifestations,
the march on Washington.
La marche sur Washington.
He saw that the civil rights movement was making progress.
Malcolm, lui, and voyait so que le mouvement des droits civiques progressait.
He wanted to engage the movement.
Et il voulait le rejoindre.
But he was being handcuffed, hamstrung by the leadership.
Mais il était entravé par la direction de la Nation of Islam.
This is not what they did.
Eux n'étaient pas là-dedans.
Elijah Muhammad taught that there would be retribution. If you put your hand on a Muslim.
Elijah Muhammad disait qu'il y aurait des représailles si on touchait à un musulman.
1962 in Los Angeles.
C'est précisément ce qui s'est passé le 27 avril 1962 à Los Angeles.
Invaded the mosque.
La police a débarqué dans la mosquée.
One of the most beloved.
Et l'un des membres les plus chers à Malcolm X dans la Nation of Islam, un homme du nom de Ronald Stokes, a été tué à bout portant alors qu'il avait les mains en l'air. Il se rendait et les policiers l'ont tué d'une balle en plein cœur. Et ça a brisé le cœur de Malcolm.
Un musulman doit être peaceful.
Malcolm disait qu'un musulman devait être pacifique, respectueux de la loi, bienveillant, etc. Mais si quelqu'un porte la main sur vous, vous l'envoyez au cimetière.
Malcolm, in New York, he was going to go to Los Angeles and go to war.
À New York, Malcolm était prêt à partir en guerre à Los Angeles contre la police.
And he was vetoed. By Elijah Muhammad.
Mais il en a été empêché par Elijah Muhammad.
And this to Malcolm,
on lui a demandé de ne rien faire.
Major contradiction.
Et ça, pour Malcolm, c'était une contradiction majeure qui a commencé à lui ouvrir les yeux sur les autres contradictions du mouvement.
Mais qu'est-ce qu'il voulait faire très exactement, Malcolm X, avec cette affaire de Ronald Stokes aller à Los Angeles et lui-même abattre des policiers de Los Angeles?
Yes.
Oui.
Yes. They asked Malcolm.
On a demandé à Malcolm sur la route de Los Angeles, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il a répondu, je vais là-bas pour mourir. Il était prêt à perdre sa vie, mais aussi à tuer.
And he had men with him ready to go.
Et il avait des hommes prêts à partir avec lui.
Absolutely.
Absolument.
Absolutely.
Je répète que je ne suis pas raciste. Je ne crois en aucune forme de ségrégation. Je suis pour la fraternité entre tous. Mais je ne crois pas qu'il faille forcer la fraternité avec des gens qui ne le veulent pas. La fraternité entre nous et avec ceux qui veulent être nos frères. Ouais. Mais je ne pense pas que nous devions essayer d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Merci.
Yann Ismaïl. Pourquoi est-ce qu'à la fin de sa vie, Malcolm X se sent menacé par la Nation of Islam qu'il a pourtant réussi à développer autant?
Donc sur la fin, je dirais que il y a eu effectivement, Malcolm X avait entendu des rumeurs dès les années 50 sur les infidélités, le fait que Elijah Muhammad profitait de certaines jeunes secrétaires et avait eu des relations et certaines avaient eu étaient enceintes, avaient eu des enfants. Mais il y a beaucoup d'autres éléments qui sont à prendre en compte. Il y a eu la divergence avec la mort de Ronald Stokes, où Malcolm X voulait une réponse beaucoup plus dure de la Nation of Islam, parce que Malcolm X était un partisan du self-défense. C'est-à-dire qu'il considérait que si les Noirs étaient attaqués, par exemple dans le Sud, il y avait beaucoup d'attaques du Ku Klux Klan qui assassinait des Noirs, il considérait qu'il devait s'organiser pour répondre à ces attaques. Et donc, effectivement, cet épisode-là a créé une divergence avec Elijah Muhammad et a créé des tensions entre Malcolm X et la direction de la Nation of Islam. Le problème, c'est que de plus en plus, par la place qu'il occupait dans les médias, le succès qu'il avait, il a engendré beaucoup de jalousie au sein de la Nation of Islam. Et finalement, arrive le meurtre de Kennedy.
Dallas, 22 novembre 1963.
Où Elijah Muhammad exige qu'aucune réaction publique ne soit faite par ses militants. Et là, Malcolm X, à un moment donné, à la fin d'une conférence à New York, il a cette petite phrase où il dit « Chickens coming home to roost ».
Ça veut dire quoi ? Comment est-ce qu'on peut traduire ça ?
C'est un peu l'équivalent en français, mais c'est un peu plus nuancé en anglais, de « qui sème le vent récolte la tempête ». Ce qu'il voulait dire, en gros, c'était... parce qu'après, ça a fait scandale dans les médias, parce que Kennedy était un président très aimé. C'était, Malcolm X, ça fait référence aux différentes guerres que les États-Unis mènent à l'étranger, à l'assassinat de Lumumba, et en disant qu'on ne peut pas promouvoir la violence à un tel degré à l'étranger et ne pas penser qu'à un moment donné, elle va revenir comme un boomerang aux États-Unis. Ouais. Sauf que sa phrase fait scandale, et là, Malcolm X est suspendu. Il faut savoir que la Nation of Islam avait des règles strictes. Quand vous ne respectiez pas les règles, par exemple, si vous alliez boire de l'alcool, fumer une cigarette, vous pouviez, selon la gravité de ce que vous avez fait, être suspendu. Donc lui, il est suspendu.
Est-ce que c'est à ce moment-là que les gens de la Nation of Islam ont commencé à imaginer des plans pour assassiner Malcolm X ?
Tout à fait. Et il y avait vraiment une campagne de haine, que ce soit les prêches des ministres dans les différents temples, que ce soit Mohammed Speaks, le journal de la Nation of Islam. On avait vraiment des appels indirects au meurtre en public et en privé, clairement des éléments qui allaient appeler à la mort de Malcolm X. Ça a créé un climat.
5 colonnes à la une, 5 mars 1965.
Ce prédicateur, c'est James X, qui justement a succédé à Malcolm X après la rupture comme responsable d'Harlem. Oui, Malcolm X est un traître.
Malcolm X is the type of traitor that once you experience such a person as that and he had reached a high level of recognition.
Malcolm X est un traître ingrat. On se demande qui peut encore se fier à lui. Il vivait plus confortablement que les autres musulmans, et c'est nous qui l'avions fabriqué. Même les Blancs ne peuvent pas se fier à lui.
Abdourahmane Mohamed, vous êtes chercheur indépendant, vous avez pendant des années enquêté sur la mort de Malcolm X, vous êtes aussi l'auteur d'une série documentaire qui a été diffusée sur Netflix en 2020, Who Killed Malcolm X, et on a devant nous une série de documents, je crois qu'ils viennent tous du FBI ou de la police de New York. Quand est-ce que le FBI a commencé à s'intéresser à Malcolm X?
Believe it or not,
croyez-le ou non,
the file on Malcolm X was opened in the FBI.
Le dossier Malcolm X
in 1950.
A été ouvert par le FBI
Malcolm
en 1950.
Had written a letter to the president.
Malcolm avait écrit une lettre au président des États-Unis, Truman.
And this was during the Korean War.
C'était pendant la guerre de Corée.
And Malcolm, who knows if it got to the president? Probably not, right?
Est-ce que c'est arrivé jusqu'au président?
Malcolm,
probablement pas.
That in this letter, why he said
mais Malcolm
this,
me disait dans cette lettre,
trolling or what?
Je ne sais pas s'il plaisantait ou quoi. J'ai toujours été communiste. Si je devais me battre, ce serait pour la Corée du Nord. Ou je ne sais plus ce qu'il a dit. C'est à ce moment-là qu'ils ont ouvert le dossier sur Malcolm. Et il n'a pas été fermé jusqu'à son assassinat.
This is a document from June of 1964.
Voici un document de juin 1964.
Telegram.
C'est un télégramme Western Union.
This was at a time when there was a riot.
À ce moment-là, il y avait des émeutes à Harlem, très violentes.
In Harlem. And J. Edgar Hoover believed that Malcolm X was the instigator of it.
Et J. Edgar Hoover pensait que Malcolm X en était l'instigateur.
The date I see on
et il envoie ce télégramme. Je lis. 5 juin 1964.
It says,
et ça dit
do something about Malcolm X.
Faites quelque chose au sujet de Malcolm X.
Black violence in New York.
Marre de cette violence noire à New York.
Coming from the director.
Venant du directeur du FBI, comment vous interprétez ça?
What does that mean? Do something.
Qu'est-ce que ça veut dire? Faites quelque chose.
Malcolm spent the night in the Hilton Hotel.
Malcolm a passé la nuit à l'hôtel Hilton, dans le centre-ville de Manhattan.
He woke up about 8 o'clock.
Il s'est réveillé vers 8 heures.
Someone called his room. He didn't know
who it was. Quelqu'un a appelé sa chambre. Il ne savait pas qui c'était.
Very cryptically said.
Et a dit mystérieusement quelque chose comme
Good morning, brother.
Bonjour, mon frère.
Just hung up.
Et a raccroché.
21 février 1965.
He leaves the hotel. He checks out about 1 o'clock.
Il quitte l'hôtel vers 13 heures. Il conduit à peu près jusqu'à la 146e rue, croisement avec Broadway, à environ 20 blocs de
l'Audubon.
Il se garait loin parce que comme ça, il pouvait surveiller les environs.
And there's differing accounts of exactly what time.
Les témoignages diffèrent sur l'heure de son arrivée.
Went in, say between 2 and 2:30.
Disons qu'il arrive entre 14h et 14h30.
He goes in.
Il entre.
He would sit down in the metal chair behind the stage.
Il était assis sur une chaise derrière la scène.
And then he would get up.
Et il se levait, il passait la tête derrière le rideau et il disait
I shouldn't go out there today. He was heard to say, I shouldn't go out.
Je devrais pas y aller aujourd'hui.
This doesn't feel right.
Il y a quelque chose d'anormal.
I shouldn't go out.
Je devrais pas y aller aujourd'hui.
Peter Bailey, journaliste et ancien collaborateur de Malcolm X.
L'Audubon est une très grande salle. Et avant la partie principale, il y a une petite pièce à l'entrée. C'était là que j'étais assis. Quand il est entré, je lui ai dit « Frère Malcolm, je voudrais te montrer quelque chose. » C'était quelque chose que je voulais mettre dans le journal. Et il a dit « Ok, amène ça derrière la scène. »
He asks his assistant minister.
Il demande à son assistant Benjamin To X Karim de l'introduire.
Benjamin goes and warms the crowd up.
Benjamin monte sur scène et chauffe le public.
Malcolm walked to the rostrum.
Puis Malcolm monte à la tribune.
And he greeted the people.
Il salue la foule avec l'habituel
Assalamu alaikum.
And the people,
about 400
environ 400 personnes répondent
Wa alaikum salam.
And I remember that.
Et je me souviens qu'à droite de là où j'étais assis, j'étais sur un banc contre le mur. Il y avait les toilettes. Juste en face de moi, il y avait le bureau. Et il y avait des policiers dedans. Je me souviens les avoir vus. J'ai vu au moins 3 policiers. Ils étaient juste là. Et puis j'ai entendu frère Malcolm dire « Assalamu alaikum ».
Est-ce qu'il était armé?
I don't think so.
Je ne pense pas.
But there were people around.
Mais il y avait des gens qui l'étaient.
Malcolm decided that the usual placement of his security guards on the
Malcolm a demandé à ce que son équipe de sécurité sur scène et à l'entrée de l'Audubon soit déplacée. Et ça a provoqué beaucoup de tensions et d'inquiétudes. Il y avait, je crois, je n'étais pas là, c'est ce que j'ai lu et ce qu'on m'a dit, une vraie inquiétude dans l'air. Malcolm entre sur scène et salue l'audience avec son habituel Assalamu alaikum, que la paix soit avec vous. Même s'il savait que la mort était imminente, il voulait partager cette énergie avec le public. Et il meurt.
Najah Zigbee-Johnson, Malcolm X savait qu'il était menacé. Est-ce que ce jour-là, il était armé?
I believe he did have a gun.
Je crois qu'il avait une arme,
again,
mais pas une arme dont il se servait. Malcolm X avait toujours des poèmes d'amour avec lui. Et il avait une collection de papillons. Et il était entouré de ses filles. Mais il disait aussi, je suis menacé. N'importe quel homme sensé, aussi menacé que moi, essaierait de se défendre. C'est logique. Et je crois que l'un de ceux qui essayait de réanimer Malcolm X, dans les ultimes moments de sa vie, a trouvé une arme dans sa ceinture.
Hicham Haïdi, on s'est donné rendez-vous sur la 165e rue. On est là tout au nord de Harlem, dans un grand bâtiment. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?
Alors ici, c'est le centre Shabazz. C'est le centre dédié à la mémoire de Malcolm X et Betty Shabazz. Et c'est ici que Malcolm X était assassiné.
Vous êtes professeur à Columbia, Hicham Haïdi. Vous avez travaillé avec un historien qui s'appelle Manning Marable, qui a écrit une grande biographie, une des biographies de référence sur Malcolm X, qui est sortie en 2011. Le Shabazz Center, il y a des grandes colonnes en marbre, des moulures un peu partout, des petits anges comme ça entre chaque colonne. On monte les escaliers, la salle de bal est au-dessus.
Ouais. Donc cet endroit s'appelait the Audubon Ballroom. Et Malcolm X est venu, 21 février, il est venu ici pour parler à 400 personnes. Il avait 400 personnes rassemblées ici dans la salle. Et c'était les membres de l'organisation qu'il avait créée, l'Organisation pour l'Unité Afro-Américaine. Il a commencé à parler, et tout d'un coup, quelqu'un a crié « Sors ta main de ma poche !»
Audubon Ballroom, 21 février 1965, 15h10, enregistrement original.
But without any further ado, I bring before you as Minister Malcolm, and I pray that you and I will listen, hear, and understand. Thank you.
Salaam alaikum. Hold it.
Audubon Ballroom, 21 février 1965. 15h10, extrait du film de Spike Lee.
Assalamu alaykum.
Get your hand out of my pocket! Get your hand out of my pocket, nigga!
Brother, please, hold.
Get your hand out of my pocket!
Sors tes mains de ma poche!
And Malcolm said, hold it.
Et Malcolm dit, du calme.
This man had a smoke bomb that he threw down on the floor. It was really like a sock, and it had.
Cet homme avait un fumigène qu'il a balancé par terre. C'était une chaussette avec de la pellicule dedans, et il l'a allumé. Ça a semé encore plus de troubles. Son équipe de sécurité, les deux hommes à la tribune, s'éloignent de la scène.
And left Malcolm as a clean shot.
Et il laisse Malcolm sans défense.
And at that moment, a very dark-skinned, burly man.
À ce moment-là, un homme à la peau très noire, très costaud, s'accroupit à environ 5 mètres de Malcolm.
And fired a shotgun.
Il vise et il tire avec un fusil.
And it was a perfect shot.
Le tir est parfait.
Right into Malcolm's heart.
En plein dans le cœur de Malcolm.
And Malcolm, his hands went up.
Malcolm lève la main.
And the man fired the shotgun again.
Et l'homme tire une deuxième fois.
Malcolm falls.
Malcolm tombe par terre.
His head hit the stage.
Sa tête heurte la scène.
And then two men jumped up from the front.
Et deux hommes sautent dessus.
One firing a 38 German Luger.
L'un avec un Luger calibre 38, l'autre avec un calibre 45. Et ils vident leur chargeur sur le corps couché de Malcolm. Et c'est comme ça que commence l'histoire de qui a tué Malcolm X. Et on essaie de percer ce mystère.
C'était
comme un champ de bataille.
And finally, myself and about four other people,
on entendait des tirs de partout. Avec quatre autres personnes, je me suis réfugié dans les toilettes. Et quand la fusillade s'est arrêtée, on est sorti. Je me suis précipité dans la salle et j'ai ouvert la porte qui donnait sur scène. Et quand je suis arrivé là, j'ai vu frère Malcolm par terre. Sa chemise était ouverte et je voyais les impacts de balles sur son corps. Je me suis dit, il va mourir. Et aucun docteur n'est venu. L'hôpital de l'université de Columbia était de l'autre côté de la rue. Aucun docteur n'est venu. Les frères y sont allés pour voler un brancard. Ils l'ont mis dessus et ils l'ont porté en face à l'hôpital de Columbia. Et moi, j'ai simplement essayé de marcher un moment et je me suis assis peut-être pendant une heure. Et je suis rentré à la maison. Je suis parti quand on nous a dit qu'il était mort.
Quel âge est-ce que vous aviez en février 1965, Ilia Sachabaz?
Well, you know, here's the thing. I was very young and I wasn't quite 3 years old.
J'étais très jeune.
My birthday is in July.
Je n'avais pas encore 3 ans. Mon anniversaire est en juillet. J'imagine que ce genre de trauma a un effet sur n'importe qui. Le 21 février, pour ma mère et ses filles, tous ces bébés, d'être là, d'assister à l'horrible lynchage de son mari, et tout le chaos et le bruit de ce moment. Et
je peux imaginer le trauma of all of that, and for Daddy to never come back home, that was trauma.
J'imagine le trauma que c'était, que papa ne rentrerait jamais à la maison.
My own, or evidently my sister's.
Mais je ne pense pas souvent à moi ou à mes sœurs.
Effect on my mother.
Je pense plutôt à l'effet que ça a eu sur ma mère. La douleur, la perte et le fait d'avoir vu. Ma mère était infirmière et lui faire du bouche à bouche pour le réanimer et la voir réconforter son mari alors qu'il rendait son dernier souffle. Il y a une photo d'elle au-dessus de son mari qui défait sa cravate. C'est simplement abominable de faire ça à quelqu'un.
Je suis resté à l'Audubon jusqu'à ce qu'on nous dise qu'il était mort. Et puis je suis rentré à la maison. Et les deux ou trois jours suivants, j'étais dévasté.
Et c'était votre anniversaire, je crois, 3 jours plus tard, 24 février. Vous avez eu 27 ans, Peter Bailey.
Oh
oui. L'anniversaire le plus pitoyable de ma vie. Ensuite, je me suis ressaisi et je me suis préparé. C'est là que sœur Betty m'a dit qu'elle m'avait choisi pour porter son cercueil.
Le corps de Malcolm X, il a été exposé à Harlem. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui sont allées le voir pour lui rendre un dernier hommage. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez, Peter Bailey, d'être allé voir le corps de Malcolm X?
J'y suis allé. Et j'étais très surpris parce que je ne pensais pas qu'il faisait ça dans l'islam. J'y suis allé. Et j'ai vu le corps dans le cercueil. Il lui avait mis un costume et tout. On voyait son visage. Il ressemblait à ce à quoi il avait toujours ressemblé. Et
Je me souviens, en le regardant, avoir senti une douleur extraordinaire. Pas une douleur physique, une douleur psychologique. Je suis sorti et je me suis assis. Je suis resté pendant une heure, sans dire un mot à qui que ce soit.
À quoi est-ce qu'il ressemble l'enterrement de Malcolm X, Jonathan Demey?
Alors, il y a énormément de monde. Il y avait déjà 30 000 personnes qui sont venues voir son corps. Donc, c'est quand même un moment qui est très fort. Et quand son corps est emmené au cimetière, il est suivi par énormément de monde. Et ensuite, son corps est mis en terre. Ce sont des militants qui vont même le mettre en terre et mettre la terre au-dessus de son corps. Et il y a 250 personnes dans le cimetière et il y a des millions de gens qui sont sur la route pour suivre cette journée où il est enterré.
Qui est-ce qui a prononcé l'oraison funèbre de Malcolm X, Naja Zigbee Johnson?
Oh, are you talking about Ozzie Davis?
Vous parlez d'Ozzie Davis?
Ozzie Davis famously referred to Malcolm X as our shining
black prince. Ozzie Davis a célèbrement appelé Malcolm X notre brillant prince noir. Et c'est devenu l'un des noms qu'on utilise quand on se souvient de Malcolm X. Même dans sa mort, les gens avaient très peur de ce que son martyr voulait dire.
Malcolm wasn't, you know, even given his final resting and prayers.
Malcolm n'a même pas été veillé dans une mosquée, mais dans une église à Harlem. Et Ozzie Davis a écrit un bel éloge funèbre. Il y a beaucoup de tendresse et d'attention dans les mots d'Ozzie quand il parle de Malcolm, notre brillant prince noir.
Here, at this final hour, in this quiet place, Harlem has come to bid farewell to one of its brightest hopes. Extinguished now and gone from us forever. For Harlem is where he worked and where he struggled and fought. There are those who will consider it their duty as friends of the Negro people to tell us to revile him.
Cet homme allongé entre ses chaises s'appelle Malcolm X. Il vient de mourir, c'était hier soir, à Harlem.
Journal télévisé, 22 février 1965.
Malcolm X, vous le connaissez, c'est le leader noir le plus extrémiste, le plus violent. Hier soir, il tient un meeting dans Harlem, le quartier noir de New York. Pendant un moment, dans la foule, un noir l'écoute, il a 22 ans et un pistolet dans la poche. Tout à l'heure, il va tirer et Malcolm X va mourir. Lorsqu'il voudra se sauver, l'assassin sera pris et presque lynché. Mais il semble que le commando chargé d'abattre Malcolm X était formé d'au moins 5 personnes, toutes noires puisque les blancs n'étaient pas admises à assister à la réunion.
Comment est-ce que la presse réagit à sa mort, Jonathan Demey?
Elle réagit avec, on peut dire, un peu ironie, vu qu'il était considéré comme un homme violent et qu'il se fait tuer avec plusieurs balles dans la peau. On est quelques mois après son commentaire sur Kennedy, donc il y a une espèce d'ironie de l'histoire sur le fait que la violence lui revient aussi au visage. Il est à la fois critiqué et en même temps, on loue son changement d'attitude depuis un an et le discours qu'il a, effectivement, qui est plus ouvert après la Mecque et ainsi de suite. Les journalistes qui ne l'aimaient pas vont effectivement le dépeindre en démon et en personnage violent. Les gens qui avaient souligné son travail intellectuel et son évolution depuis plusieurs mois regretteront qu'il se fasse tuer alors qu'il commençait vraiment une nouvelle vie à ce moment-là.
Malcolm X avait été un macro, un cocaïnomane et un voleur. C'était un démagogue sans vergogne. La haine était son évangile. Time Magazine, 5 mars 1965.
Quand je serai mort, je dis ça parce que je ne pense pas vivre assez longtemps pour lire ce livre dans son intégralité, Je veux que vous vous demandiez si j'ai tort quand je dis que l'homme blanc dans ces médias m'identifiera à la haine. Il se servira de moi mort comme il s'est servi de moi vivant, comme d'un symbole commode de la haine. Et ça l'aidera à éviter de faire face à la vérité, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, c'est tenir un miroir. C'est montrer l'histoire des crimes innommables que sa race a commis contre la mienne. Vous verrez.
Des partisans de frère Malcolm sont arrivés et ont mis son cercueil dans la tombe. Ils ont dit à ceux dont c'était le boulot, « Dégagez de là !» Ils leur ont signifié très clairement que c'est nous qui allions le faire. L'un d'entre eux a un peu rouspété, mais on lui a dit « Tu devrais dégager de là et nous laisser tranquilles. »
Est-ce qu'il vous arrive, Peter Bailey, de rêver de Malcolm X ?
Je ne rêve pas de lui, mais je pense souvent à lui. Parce qu'il a eu une immense influence sur ma façon de voir mon peuple dans ce pays et en Afrique. Et avec la situation qu'on vit en ce moment, ce qu'il disait il y a 60 ans est tout aussi vrai aujourd'hui. C'était quelqu'un de très moral. Mais comme frère Malcolm nous le disait, aucun être humain n'est 100% parfait. Chacun de nous a un côté positif et un côté négatif. Ce n'est pas Dieu. Il n'a jamais essayé de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Je vais être honnête. Il y a les choses dont il parle dans son autobiographie, ce qu'il a fait dans sa jeunesse. Je ne le connaissais pas à ce moment-là. Mais il le dit dans son autobiographie. Les gens qui veulent la lire savent qu'il a parlé des aspects négatifs de sa jeunesse. Mais le Malcolm X que j'ai connu à partir de 1962 était un grand être humain, un grand homme noir, un grand panafricaniste et un grand maître à penser. C'est ce qu'il était.
Meurtre à Harlem. Avec Peter Bailey, Jonathan Demey, Naja Zigbee Johnson, Abdourahman Mohamad, Ilyasa Shabazz, Yanis Maïl et Hicham Haïdi. Malcolm X est interprété par Biran Ba. L'autobiographie est traduite par Anne Guérin, Gaël Diffère et Marie Herman et parue aux éditions Hors d'atteinte. Vous avez entendu les voix de Prudence Castelot, Pauline Ziadé, Bonnie Charles, Myriam Ajar et Anne de Pefeillou, enregistrées par Nadège Antonini et Claire Levasseur. Vous avez entendu également des extraits du film Malcolm X de Spike Lee. Merci aux éditions Sileps et La Fabrique, responsable éditorial Emmanuel Laurentin, coordination Christine Bernard, chargée de programme Anne-Vanessa Prévost, Malcolm X, Colère Noire, une grande traversée de Romain Weber et Yvon Croisier.